Bonjour, cet épisode a été enregistré le 22 octobre 2010. Architecte, un podcast sur les sujets d'architecture technique en français. Cette nouvelle formule reste disponible en audio, mais elle existe également en vidéo. Les épisodes ont une longueur d'à peu près 20 minutes. L'adresse de référence est blogs.msdn.com/architecte. Vous y trouverez les liens pour vous abonner au podcast ou voir les vidéos sur Challenge. Je suis Benjamin Guinvertier, architecte en système d'information au sein de la division plateforme et écosystème de Microsoft. Aujourd'hui, nous allons parler de Windows Phone 7 avec Pierre Cauchois. Pierre, bonjour, peux-tu te présenter ?
Oui, je suis Pierre Cauchois, je suis responsable des relations avec les développeurs de la communauté sur Windows Phone 7.
D'accord, très bien. Bon, déjà, écoute, merci d'être venu. Donc, voici le sujet Windows Phone 7. Nous espérons que ça vous intéressera. Alors, première question. Quelle est la date de sortie de Windows Phone 7 ?
La date de sortie est dans le passé, c'est hier.
D'accord.
Depuis hier, les terminaux sont disponibles dans les boutiques. On avait annoncé ça le 11. Donc déjà là, maintenant, vous allez dans les boutiques pour les opérateurs et vous trouvez des terminaux Windows Phone 7.
D'accord, très bien. Deuxième question, Windows Phone 7 est-il prévu pour l'entreprise ? J'ai entendu dire que c'était surtout un téléphone qui était grand public. Comment est-ce que ça marche dans le cadre de l'entreprise ?
Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de communication autour du fait que le téléphone est pour le grand public, parce qu'on a complètement repensé l'interface utilisateur, l'ergonomie du smartphone pour satisfaire tous ces gens qui ont besoin de jongler entre leur vie pro et leur vie perso. Ceci étant dit, c'est un vrai téléphone d'entreprise.
Ouais.
On peut évidemment se connecter au serveur Exchange, on peut évidemment recevoir ses mails en push, synchroniser son calendrier, ses emails, ses contacts, etc. Et c'est même un super téléphone d'entreprise pour tout ce qui est productivité, puisqu'on a inclus toute la suite Office avec Word, Excel et PowerPoint pour voir des documents mais aussi pour les éditer. On inclut la synchronisation avec OneNote et la synchronisation avec SharePoint. Donc si vous avez un SharePoint dans votre entreprise, vous pouvez synchroniser les listes, les news et le contenu comme les documents que vous partagez avec vos collaborateurs sur Windows Phone 7.
D'accord, donc c'est disponible offline et puis on peut y accéder aussi
exactement.
En direct ou c'est...
On peut y accéder en direct quand on est sur le réseau local de l'entreprise.
D'accord.
Quand on est en dehors de l'entreprise, il faut passer par une gateway UAG.
D'accord.
Donc classique.
UAG, Uniform Access Gateway.
Uniform Access Gateway, voilà. Mm-hmm. Et puis sinon, si on n'a pas d'UAG, c'est pas grave, on peut quand même conserver les documents en local sur le téléphone et quand on revient sur le réseau de l'entreprise, il est resynchronisé avec le SharePoint.
D'accord. Quand tu dis réseau de l'entreprise, c'est par du Wi-Fi, il y a un support du Wi-Fi.
Oui, complètement. Ça peut être par du Wi-Fi ou alors à travers le câble qu'on connecte au PC.
Ah oui, via le PC, d'accord.
Voilà, comme on veut.
D'accord, ok. Très bien. Comment est-ce qu'on peut développer sur Windows Phone 7 ? Donc là, il y a peut-être
trois choses à dire. Oui, tout à fait. Bah, Windows Phone 7, c'est un smartphone, donc c'est aussi une plateforme de développement.
Ouais.
Donc on est chez Microsoft, donc l'outil de développement, ça va être Visual Studio 2010, évidemment. Petite nouveauté avec Windows Phone 7, même Visual Studio 2010, Express permet de développer sur Windows Phone 7. Les outils de développement sont complètement gratuits. On n'a pas oublié les designers non plus, qui sont importants dans le cycle de développement d'une application. Donc Expression Blend 4 est aussi gratuit pour Windows Phone. Donc on a à la fois un outil pour designer et un outil pour développeur qui vont travailler sur le même projet.
D'accord.
Tout ça gratuitement. Après, au niveau des frameworks, pour les runtimes, on va être remis sur le téléphone. On va trouver Silverlight pour tout ce qui est développement d'applications et Xena pour tout ce qui est développement de jeu. L'avantage, c'est que Silverlight, c'est un framework qu'on trouve à la fois sur le PC et sur le téléphone, à l'intérieur ou en dehors du navigateur d'ailleurs, enfin sur le PC à l'intérieur ou en dehors du navigateur, sur le téléphone en dehors du navigateur en mode applicatif.
D'accord.
Et Xena, pour les jeux, c'est un framework qu'on va trouver sur la Xbox 360, sur le PC et sur le téléphone. Donc on est en train, avec Windows Phone 7, de continuer avec cette promesse 3 écrans et un cloud de Microsoft.
D'accord. Et donc on peut, en Xena, on va faire plutôt des jeux d'arcade.
Oui, tout à fait. Ça va plutôt être des jeux d'arcade, du casual gaming, parce que c'est une technologie qu'on trouve sur la Xbox Live Arcade.
D'accord.
Maintenant, ça n'empêche absolument pas de faire des jeux 3D, y compris des jeux 3D extrêmement impressionnants, avec des effets de particules, de la déformation du terrain, etc. On a un moteur graphique qui est très puissant. Mm-hmm. Tous les Windows Phone 7 disposent d'un GPU, d'accélération graphique en hardware.
Ouais.
Et on voit des très gros studios, LucasArts par exemple, qui sortent des jeux aujourd'hui dès le lancement sur Windows Phone 7.
Et d'accord, donc il y a de quoi faire.
Ouais. Les amateurs de Star Wars y trouveront leur compte.
D'accord. Et donc, et sur Silverlight, on va faire plutôt des applications de gestion ou des applications, tous les autres types d'applications.
Ça va être des formulaires. Tous les autres types d'applications, voilà. Bah, Silverlight, c'est une logique de développement à travers des formulaires.
Hein.
Ouais. Donc on peut en faire des applications très grand public. On voit des entreprises comme Allociné, comme Le Figaro, qui font des applications comme Mythique.
Ouais.
Ils font des applications en Silverlight sur Windows 7. Mais ça ne nous empêche absolument pas de faire des applications plus pro, de la saisie à travers des formulaires ou quoi que ce soit qu'on puisse imaginer dans la gestion ou dans l'intranet ou tout ça.
Et pour la géolocalisation ou d'autres choses très spécifiques liées au terminal,
les runtime Silverlight et Xana sont sandboxés, donc par défaut effectivement ils n'ont pas accès au système d'exploitation et aux fonctionnalités du système d'exploitation. Ceci dit, évidemment, on inclut des API pour accéder quand même aux fonctionnalités du téléphone, que ce soit le GPS, l'accéléromètre, les médias qu'on a sur le téléphone, peut-être la musique, les vidéos, etc. On peut aussi avoir accès à tout ce qui est contact, accès à du stockage local si on a besoin de cacher des informations sur le téléphone.
D'accord.
Bref, on a accès à toutes les fonctionnalités du téléphone directement depuis le kit de développement en Silverlight ou en Xana.
D'accord. Et on peut mixer Silverlight et Xana ou comment est-ce que ça se passe?
Oui et non. Ça va devenir un petit peu technique. On peut mixer API Silverlight et des API Xana. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est mixer des surfaces d'affichage Silverlight et des surfaces d'affichage Xana. Au niveau de la vue dans l'application, c'est soit Silverlight, soit Xana. Okay. Après, dans les API sous-jacentes, on peut utiliser Xana comme Silverlight.
D'accord, on peut pas faire un formulaire en 3D qui...
On pourrait faire un formulaire en 3D, mais à ce moment-là, il faudrait utiliser que Xana,
d'accord,
que Silverlight.
Ouais, ouais, les deux en même
temps. Ouais, d'accord.
Ok. Comment fonctionne la marketplace? Qu'est-ce que c'est?
Alors, la marketplace, c'est l'endroit dans lequel on va retrouver toutes les applications pour Windows Phone 7. C'est l'unique moyen de déployer des applications sur Windows Phone 7, c'est à travers marketplace.
D'accord.
Donc, les utilisateurs, ils vont avoir un joli client dans le téléphone et un client sur le PC, un client Zune, qui va aussi pouvoir servir pour naviguer dans marketplace. Et on a, c'est là qu'on va choisir les applications qu'on va installer sur le téléphone.
D'accord.
On va retrouver également Marketplace inséré à différents endroits dans le téléphone. Par exemple, quand on ira dans le hub musique et vidéo, on trouvera un lien vers le Marketplace de musique. Quand on ira sur le hub gaming, on trouvera un lien vers le Marketplace pour les jeux et ainsi de suite. Donc, on va avoir plusieurs endroits et le Marketplace est entièrement inclus dans le téléphone. Côté développeur, comment ça se passe? Pour avoir une connexion et pouvoir publier des applications sur Marketplace, il faut un compte live.
Ouais.
Et après, il faut s'enregistrer sur create.msdn.com. Mm-hmm. Donc ça va nous coûter, à nous développeurs, $100 à l'année, $99 à l'année. Et cette connexion va nous permettre de publier autant d'applications payantes qu'on veut, jusqu'à 5 applications gratuites. Après, si on veut publier plus d'applications gratuites, il faudra payer $20 par application pour éviter toutes les pollutions avec des applications gratuites qui servent à rien.
D'accord.
Et à ce moment-là, les applications qu'on publie passent par un système de certification. Cette certification, c'est quelque chose qui nous permet de s'assurer qu'on va proposer aux utilisateurs de Windows Phone que des applications de qualité. Mmh. On veut que cette certification elle soit transparente. Donc sur create.msdn.com, on retrouve tous les critères de test par lesquels passe l'application. Et quand on certifie une application, on a un rapport de test complet avec éventuellement les steps de reproduction de bugs qui expliquent pourquoi
on a
réussi à passer la certification.
Donc, pas pour des raisons obscures, quoi.
Mais c'est pas pour des raisons obscures, on veut que ce processus soit extrêmement transparent. C'est un processus qui prend quelques jours. En ce moment, on est à 2-3 jours pour faire certifier une application. Ça va très vite. Et on veut vraiment aider les développeurs, malgré cette certification, à passer cette étape pour pouvoir publier les applications sur Marketplace.
Mais ce qui favorise en même temps l'adoption des applications, puisque du coup, on hésite un peu moins à installer l'application de quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Puisque...
Alors, non seulement on n'hésite pas parce qu'on sait que Microsoft est passé à vérifier que l'application fonctionnait bien, mais en plus, si par hasard on hésite, c'est pas grave, puisqu'il y a une fonction d'essai avant l'achat dans Marketplace qui permet sans payer d'essayer pendant un temps limité l'application.
Mm-hmm.
Et si on est content de cette application, à ce moment-là, on achète. Si on n'est pas content, c'est pas grave, on enlève et on n'a rien payé. Par ailleurs, pour les développeurs qui pourraient se poser la question, mais je veux pas donner accès à toutes les fonctionnalités de mon application quand la personne est en mode essai,
là,
en limite limiter la fonctionnalité. C'est très très simple. Il y a une API dans le SDK. C'est une méthode qui renvoie un booléen, vrai ou faux. Mm-hmm. Vrai, ça veut dire que l'utilisateur est en train d'essayer et que donc peut-être il faut limiter un certain nombre de niveaux dans le jeu, ou de fonctions dans l'application, par exemple. Et faux, à ce moment-là, ça veut dire que l'utilisateur il a effectivement acheté l'application et donc on peut débloquer toutes les fonctionnalités.
Il a le droit à tout.
C'est très simple. Mm-hmm. Voilà.
D'accord, ok. Et donc c'est l'application qui choisit de faire ce qu'elle veut quand elle est en mode e-trial ou pas.
Voilà, exactement. Exactement. Alors on a oublié un point important pour les développeurs, c'est que les développeurs se font systématiquement 70% du revenu qui est lié à leur application, si elle est payante, 70% des ventes de l'application. Et après, dans l'application, ils peuvent mettre le business model qu'ils veulent, que ce soit du financé par la pub, financé à travers un abonnement, mettre du micro-paiement dans l'application, ou alors faire payer le prix de l'application et après avoir tout le contenu gratuit. C'est eux qui décident qu'ils veulent, et juste le prix de vente, ils en touchent 70%, et Microsoft touche 30%. C'est soit Microsoft et ses partenaires, puisqu'on est aussi en train de travailler avec les opérateurs,
d'accord,
pour implémenter la facturation directement sur la facture, pour que l'utilisateur n'ait pas tout simplement n'est pas rentré son numéro de carte bleue pour payer une application, c'est directement sur la facture de l'opérateur.
Ouais, d'accord, ok. Et le développeur, comment ça se passe? Il est obligé de pour mettre son application sur son device pour la tester. Il passe pas par le marketplace, forcément.
Alors, non, il passe pas par le marketplace. Par contre, il passe par le hubcreate.msdn.com. Une fois qu'il a créé son compte,
ouais,
il peut débloquer en fait son téléphone. Il y a un petit utilitaire dans les outils de développement qui permet,
d'accord,
de débloquer son téléphone pour pouvoir y déployer des applications et tester les applications sur le téléphone avant de les envoyer sur marketplace.
D'accord, donc il débloque son propre téléphone, ensuite il déploie sur son propre téléphone pour tester.
Voilà, chaque compte développeur peut débloquer jusqu'à 3 téléphones et installer, en passant par les outils de développement, jusqu'à 10 applications.
D'accord.
Qui permet quand même de tester un certain nombre d'applications sur un certain nombre de téléphones sans avoir avant de les publier sur Marketplace.
Ouais, d'accord.
Si par hasard le développeur il a envie de faire tester l'application à ses amis, c'est un système qu'on va mettre en place d'ici la fin de l'année. C'est un système de bêta privé qui,
ouais,
va permettre aux développeurs de rentrer les identifiants des gens à qui il veut donner l'accès à son application sur Marketplace. Et comme ça, il pourra avoir faire se tester son application et récolter un certain nombre de feedbacks directement auprès de ses amis en déployant à travers Marketplace,
ouais,
avant de faire une disponibilité publique globale.
Ouais, je comprends. Et dans le cadre de l'entreprise, comment ça se passe pour on est obligé de passer par la marketplace aussi. Comment est-ce que qu'est-ce qu'on conseille on développe une application à destination de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait?
Alors pour les entreprises aujourd'hui, l'histoire n'est pas toute rose.
Mmh.
On est en phase de lancement.
D'accord.
C'est vrai qu'on s'est concentré avant tout sur l'utilisateur final, le grand public. D'une manière générale, la personne qui va chez l'opérateur, achète son téléphone et paye son forfait.
Mmh.
Donc c'est eux qu'on veut satisfaire en premier. On n'a pas encore de mécanique de déploiement en entreprise.
D'accord.
Pour les applications, j'entends.
Ouais.
Donc pour déployer une application, on est obligé de passer par Marketplace. Évidemment, chez Microsoft, on sait que c'est un trou dans la raquette, actuellement. C'est pour ça, en partie, qu'on maintient Windows Mobile 6.5 pendant encore un certain temps, pendant encore au moins 2 ans.
D'accord.
Par ailleurs, en ce moment, les équipes planchent d'arrache-pied sur quelle serait la bonne solution de déploiement d'entreprise. Est-ce que ça passe par un serveur Exchange, par un logiciel spécifique? Est-ce que ça passe par des marketplaces privés, déployés chez nous, chez vous?
Ouais.
Tout ça, toutes les questions sont encore à l'étude, et on devrait arriver dans le courant de l'année prochaine avec des réponses très concrètes pour comment on fait pour déployer des applications métiers dans l'entreprise.
Et à supposer qu'on puisse développer maintenant une application, qu'on accepte de la mettre dans un marketplace, mais qu'elle ne fonctionne qu'avec l'intranet, qu'avec l'accès à l'intranet, par exemple, elle pourrait passer la certification quand même ou comment?
Alors, effectivement, on peut faire ça à partir du moment où on accepte qu'elle fonctionne, qu'elle soit déployée à travers le marketplace public. Il y a quand même deux petits bémols à apporter à ça. Premièrement, une application doit être fonctionnelle pour passer la certification. Donc si votre application, quand vous la soumettez, elle ne présente qu'un écran avec login, mot de passe et qu'elle fait rien derrière pour le grand public, elle risque de pas passer la certification.
D'accord.
Donc c'est quand même un frein pour des applications purement intranet.
D'accord.
Et l'autre frein, il faut faire attention à tout ce qui est sécurisation du code. Il y a plein de méthodes pour sécuriser, que ce soit les tuyaux avec des communications HTTPS, etc.
Ouais.
Mais aussi les données sur le téléphone avec le support de cryptage, par exemple en AES, des choses comme ça. On peut sécuriser ces données, mais il va falloir faire attention à ces problématiques, parce que si on met l'application d'entreprise dans le grand public, il y a des gens qui vont pouvoir la télécharger et après, qui sait ce qui peut arriver.
D'accord.
Normalement, tout est protégé, mais on sait que tout bon architecte doit
tu penses à la décompilation du code ou des choses comme ça.
Normalement, on n'a même pas accès au code.
Oui.
Normalement, on n'a même pas accès au code, mais il faut espérer le meilleur à prévoir le pire.
Oui, d'accord.
Je pense. Et donc, on n'est jamais, on ne sait pas ce que les hackers arriveront à faire. Donc, il n'y a pas de limite à leur intelligence.
Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, si on fait ça, c'est faisable pour peu qu'il y ait un minimum de fonctionnalité pour le grand public, de façon à passer la certification.
Voilà.
Et surtout, pas de secret dans l'application.
Exactement. Ou alors, c'est à vos risques et périls. Nous, on sait qu'on a fait un système qui est relativement sécurisé. Bon, évidemment, je ne vais pas dire tout de suite, je ne peux pas divulguer les secrets de sécurisation du téléphone, mais tous les téléphones du marché se sont fait router.
Oui.
Est-ce que ça ne va pas arriver au téléphone de Microsoft?
Oui,
on peut espérer que non, mais voilà.
Il ne faut retenir pas de secret dans l'application.
Tout à fait. Je crois qu'il faut être pragmatique et attentif à ces risques-là.
D'accord. Portabilité d'une application Windows Phone 6.5 vers Windows Phone 7, puisque d'après ce que tu nous dis, dans des scénarios vraiment purement intranet, on a peut-être intérêt à continuer à le développer en Windows Phone 6.5 pour l'instant, enfin, ou maintenir une application existante en Windows Phone 6.5. Mm-hmm. Cela dit, il faut préparer la migration vers Windows Phone 7. Comment est-ce que ça se passe?
Alors, le runtime a changé entre Windows Phone 6.5 et Windows Phone 7. On a tout changé. On a changé l'OS, on a changé le modèle de déploiement et on a changé les runtimes. Avant, on était sur un cœur Windows 5 avec des runtimes qui étaient soit du C++, soit du natif, en fait, soit managé avec le Compact Framework. Aujourd'hui, on est sur un OS qui est un truc entre CE6 et CE7, donc tout le modèle mémoire, le modèle de sécurité, le modèle de driver, tout a changé.
Mm-hmm.
Et en plus, le runtime, c'est plus le Compact Framework, c'est l'évolution du Compact Framework, les évolutions du Compact Framework, que sont Silverlight et XNA.
Ouais.
Donc c'est des évolutions qui sont logiques, mais qui cassent la compatibilité d'un certain nombre de choses, notamment au niveau des vues, puisqu'on est sur des couches de présentation, soit XNA très basique, on accède directement au frame buffer, soit en Silverlight, couche de présentation en XAML,
ouais.
Ce qui n'était pas le cas en Compact Framework, donc il va falloir penser à réécrire toute sa couche de présentation. Et par ailleurs, au niveau de l'accès aux données et de l'accès au réseau...
On ne peut pas faire tourner du Silverlight sur 6.5.
Non, on ne peut pas faire tourner du Silverlight sur 6.5. Et tout ce qui est accès aux données ou accès au réseau, Windows Phone 7, maintenant c'est l'Isolated Storage, c'est plus un format d'accès au file system comme on en avait l'habitude. Et l'accès au réseau, tout se fait en asynchrone. Là où avec le Compact Framework, vous pouvez faire du synchrone.
Mm-hmm.
Donc mine de rien, quand on pense qu'il faut changer la couche d'accès aux données et la couche de présentation, finalement, à part quelques routines métiers, il va falloir réécrire une bonne partie de l'application. C'est un certain travail, ça c'est sûr.
D'accord.
Ça se fait bien parce que c'est les mêmes compétences. Hein. Le Silverlight XNA, c'est vraiment les évolutions du Compact Framework. Le cœur de Silverlight XNA, c'est la suite du Compact Framework.
Ouais.
Donc les compétences, elles sont déjà là. Par contre, la réécriture est quasi obligatoire d'une grande partie de l'application.
Windows Phone 7 est-il multitâche?
Alors, c'est une excellente question. Oui, Windows Phone 7 est multitâche.
Ouais.
C'est un OS, le cœur de Windows 7 qu'on utilise est un OS en réel dur et parfaitement multitâche.
D'accord.
Donc, on est sur un système d'exploitation qui est très riche et très complet. Maintenant, est-ce que ce multitâche est accessible à tout le monde et comment il marche au niveau applicatif?
Ouais.
Quand on monte au niveau de la couche applicative, pas que de la couche système, là ça devient un petit peu plus compliqué. Ce qu'on autorise, c'est les applications natives du système peuvent tourner en background. Donc, quand on pense à, par exemple, le chargement d'une page web sur le browser, ça peut tourner en background, la synchronisation des mails tourne en background. On peut continuer à passer un appel en manipulant son téléphone et la conversation téléphonique passe en background. Tout ça, ça marche très bien.
Mm-hmm.
Ce qu'on interdit, en revanche, c'est qu'une application tierce installée
à travers
le marketplace, c'est qu'une application tierce tourne en background, puisque à partir du moment où l'utilisateur ne l'affiche pas à l'écran, c'est qu'il ne s'en sert pas, et s'il ne s'en sert pas, il n'y a pas de raison qu'elle consomme du CPU et donc de la batterie.
D'accord.
Ceci étant dit, il y a des scénarios dans lesquels on peut avoir envie qu'une application continue à tourner en background,
ouais.
Et c'est pour ça qu'on a ramené un système de notification en push sur Windows Phone, qui fait qu'en fait, quand votre application part en background, elle est notifiée de ça, et vous pouvez après, donc elle fera plus tourner de code, mais au moment où elle passe en background, vous pouvez avertir un service sur le web que votre application passe en background, ce serait votre service, et votre service, après il peut continuer à suivre par exemple l'actualité et rappeler le téléphone quand il y a une nouvelle actualité qui tombe par exemple.
J'ai une application qui me notifie des résultats de build sur TFS par exemple.
C'est un excellent exemple. Là où avant on aurait pu faire passer l'application en background et continuer à aller interroger en mode calling le serveur, cette fois-ci on dit l'application ne tourne plus. Par contre, vous êtes enregistré auprès d'un serveur, il y a un web service qui dès qu'il y a une nouvelle build qui a fonctionné, on peut envoyer une notification au Windows Phone et même si l'application ne tourne pas, la notification elle est reçue et donc après on peut relancer l'application à partir de cette notification.
D'accord, ok, très bien. Alors, question suivante. Quelle est la portabilité entre l'application Silverlight sur le PC et dans le téléphone ou sur le téléphone, je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est dessus et l'autre dedans, mais...
Alors, effectivement, on retrouve Silverlight sur le PC et sur le téléphone, on l'a dit, c'est une des forces de Windows Phone d'ailleurs, hein, c'est de pouvoir réutiliser une bonne partie du travail qu'on a fait sur le PC sur le téléphone.
C'est une sorte de petit .NET framework en fait.
Voilà, c'est une version du framework .NET extrêmement légère qui tourne en 4-5 mégas et qui est un plugin pour un browser, pour un navigateur web, enfin pour tous les navigateurs web d'ailleurs, que ce soit Internet Explorer, Firefox ou les autres.
Ouais.
Et donc ce petit runtime, on l'a ramené sur Windows Phone. Donc, ce qu'on a ramené, c'est très précisément Silverlight 3, plus quelques fonctionnalités de Silverlight 4, comme le contrôle web browser et d'autres choses.
D'accord.
On continue à implémenter les fonctionnalités de Silverlight 4 qu'on va ramener dans le téléphone aussi. Donc globalement, quand on a une application Silverlight, on peut ramener toutes les couches d'accès aux données, toutes les couches métiers. Là où enfin, je vais mettre un petit warning, c'est que vous pouvez aussi ramener tout ce qui est les vues en Silverlight sur le PC, sauf qu'il faut se rappeler que sur un PC, on a une résolution qui est très importante, on est dans ou en dehors d'un navigateur, mais on est quand même sur une ergonomie de PC qui s'adapte pas forcément bien au téléphone. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand on fait une application mobile, c'est revoir l'ergonomie de l'application, évidemment, pour qu'elle tourne bien sur le téléphone. Mais globalement, toutes les couches métiers, toutes les couches d'accès aux données, on peut les reprendre.
On n'est pas en 1024x768 minimum avec une souris, on est plutôt avec le doigt et...
C'est un écran tactile multitouch avec une résolution aujourd'hui qui est 800x480 en mode portrait ou en mode paysage.
Ouais.
Et puis surtout avec des principes d'ergonomie et un look and feel qu'on appelle Metro,
ouais,
qui est le look and feel de tout Windows Phone, hein, dans lequel il y a très peu de Chrome, dans lequel c'est vraiment le contenu qui est l'interface, dans lequel on implémente des navigations à l'horizontale sous forme de pivot, ce qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup sur les applications PC, même si on peut la retrouver par exemple sur la nouvelle application de Live Messenger ou sur le client Zune. On voit que c'est des ergonomies qui commencent à arriver sur le PC. Sur le téléphone, c'est pas pareil. Donc il faut penser à bien s'intégrer avec l'interface du téléphone, avec l'ergonomie du téléphone, c'est des ergonomies multitouch.
D'accord. Bon. Quelles sont les bonnes ressources pour en savoir plus ?
Alors, il y a plein de ressources sur Windows Phone 7, sur Internet et ailleurs, puisque, par exemple, le programmé c'est le programmé du mois d'octobre, effectivement, un supplément Windows Phone 7 de 48 pages pour tout savoir sur Windows Phone 7 et le développement d'applications avec Windows Phone 7.
Ouais.
Maintenant, on trouve aussi énormément de ressources en ligne. Le hub principal, c'est create.msdn.com, puisque c'est le portail développeur sur lequel on va retrouver toutes les ressources, mais plutôt des ressources anglophones. Il faut savoir que sur MSDN et les centres sur MSDN en France, donc msdn.fr, on va retrouver aussi un hub spécial Windows Phone 7, dans lequel on met beaucoup de contenu en français qui est mis à jour très régulièrement. Et puis, il y a plein de blogs de la communauté qui sont agrégés sur le centre de développement MSDN. Donc, si on cherche des ressources plutôt francophones, on va se tourner plutôt vers msdn.fr, les versions françaises de MSDN. Si on cherche des ressources plutôt pour développeurs et plutôt en version originale, voilà, on va aller sur create.msdn.com.
D'accord, bon. Et puis, donc, on mettra ce lien-là et puis le lien aussi vers ton blog sur le blog de l'architecte.
Voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Retrouvez les ressources à http://blogs.msdn.com/architecte. Au revoir et à la prochaine fois.
Merci.